Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
1, 0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7 heures minuit, alors je suis pas bon.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.
Et oui, les 6 heures avant minuit, vous écoutez l'émission d'actu locale de Syllabe. Merci à vous. Petit sondage autour de la table. Vous vous trouvez plutôt optimiste sur l'avenir, sur votre vie en général ?
Oh, ça dépend des jours et des nouvelles.
Ça va globalement.
Ça va ? Non, je vous demande parce que selon le dernier baromètre des territoires, les Bretons et Bretonnes seraient les plus optimistes de France. Ce sondage réalisé par ELAB et l'Institut Montaigne avec la SNCF, ne me demandez pas pourquoi, est réalisé depuis 3 ans auprès de 10 000 personnes dans les 12 régions métropolitaines. S'il ressort de cette enquête que les Français et Françaises sont très inquiets et angoissés par le réchauffement climatique, la perte de leur pouvoir d'achat, les fermetures de services publics, les guerres, tout ça, les Bretons et Bretonnes, elles et eux, vont plutôt mieux. Comme diraient les grands philosophes de Mathmata, si tu cherches un peu de gaieté, viens, non, c'est pas, vous avez pas, c'est pas votre génération. Ouais, merci Timothée. Viens donc faire un tour à l'ambé. Alors pourquoi, selon vous, le beurre salé ?
Oui, le caramel. Oui,
globalement, le caramel, je ne sais pas. En fait, 85% des habitants et habitantes de notre région s'y disent attachés et estiment qu'il y fait bon vivre. On y trouve aussi les taux de chômage les plus faibles de France, accessoirement. Et aussi une des meilleures radios du pays. Je dis ça, je dis rien, je pense que ça doit beaucoup jouer.
C'est vrai.
D'ailleurs, tout de suite, c'est le flash de Cyriane.
Nous n'avons même pas pu trouver l'emplacement exact de nos maisons en raison de l'ampleur des destructions. C'est désolé, Arafat, Maria Gad El Haq, sur France Info, revenant chez elle 15 mois après le début des bombardements intensifs d'Israël sur la bande de Gaza. Au total, 2,4 millions de Gazaouis ont été déplacés par le génocide. Depuis ce dimanche, des centaines de milliers de déplacés, des centaines de milliers ont pu revenir à Gaza ce week-end grâce à l'accord de cessez-le-feu. Avec elles et eux, 90 des Palestiniens et Palestiniennes retenus ou emprisonnés par Israël ont aussi pu rejoindre leurs terres. Quelques heures auparavant, 3 otages israéliennes avaient été libérés par le Hamas. D'après un responsable égyptien, 260 camions d'aide et 16 de carburant sur les 600 prévus par jour sont entrés en fin de journée hier. Il est de retour. Depuis 17h.
Il est de retour, c'est Dark Vador.
Non, c'est Donald Trump. Depuis 17h, la cérémonie d'investiture donc, de Donald Trump a lieu à Washington. Président des États-Unis pour la seconde fois, le chef d'État américain est le plus âgé, jamais investi à 78 ans et 220 jours contre 78 ans et 61 jours pour Joe Biden.
Waouh.
L'écart est fou. Parmi les déclarations donc de Donald Trump, le républicain avait annoncé qu'à partir de cette date, un déferlement de décrets serait pris pour, notamment, je cite, « endiguer l'invasion de migrants sans papier ». Sauver TikTok fait aussi partie de ses promesses, le tout en suspendant l'application de la loi interdisant la plateforme aux plus de 170 millions d'utilisateurs et utilisatrices, laquelle ayant été rétablie avant même son investiture. La richesse des milliardaires a augmenté de 2 000 milliards de dollars en 2024, soit 3 fois plus qu'en 2023. C'est ce qu'affirme le dernier rapport de l'ONG Oxfam publié ce lundi. En pleine investiture de Trump donc, mais aussi à l'ouverture du Forum économique mondial de Davos en Suisse. Dans ce rapport, on apprend que 204 personnes supplémentaires sont devenues milliardaires dans le monde, soit près de 4 nouveaux milliardaires par semaine en moyenne. Parmi elles et eux, plus d'un tiers le sont en raison de leur héritage et non de leur entrepreneuriat. Selon la Banque mondiale, 44% de l'humanité vivait sous le seuil de pauvreté en 2024. Face à ce constat, Oxfam propose de taxer les richesses héritées, de plafonner la rémunération des PDG ou encore d'annuler les dettes des pays en voie de développement. Ces millions-là, les riches ne les auront pas. Ce week-end, 3,4 millions d'euros ont été récoltés lors du Stream for Humanity sur Twitch, un marathon caritatif ayant réuni plus de 26 stars d'Internet au profit de 4 pays, le Congo, le Soudan, le Liban et la Palestine. Des territoires tous touchés par des conflits armés ou subissant un génocide. Présente dans ces pays, c'est l'association Médecins Sans Frontières qui a été choisie par Amine Mathué, streamer, à l'initiative de l'événement. Bien que la diffusion en direct soit terminée, les dons restent bien évidemment ouverts, comme l'a précisé l'organisation dimanche soir sur X Twitter. Et encore une fois, c'est un triste week-end pour le foot traîné.
Et qu'est-ce qui se passe encore ?
Encore une fois. Et ce, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. De retour de vacances, les violettes du CPB Bricchini se sont vues imposer une défaite sur leur pelouse. Battues 3-5 par Saint-Denis, les Rennaises restent à la 5e place sur 12 de la D3 Poule A. De son côté, le Stade Rennais, avec une défaite de 0 à 1 face à Brest, est officiellement rentré dans son pire parcours en championnat depuis 41 ans. De quoi provoquer la furie de supporters ayant carrément tenté de s'en prendre aux joueurs en descendant sur le terrain. Arrivé à la fin du match, l'incident n'a pas dégénéré. Les CRS étant intervenus rapidement, les rouges et noirs. Les rouges et noirs ne sont plus qu'à 4 points de la zone rouge, leur valant relégation. Ex aequo avec Nantes et Saint-Étienne.
Et Eva était à une brève de dire son papier.
Oui.
Oups.
Oups.
De quoi voulais-tu nous parler, Eva ?
De la loi Veil.
Qui a 50 ans.
Qui a 50 ans. Mais on va repartir dans le passé un peu pour redonner le contexte. 26 novembre 1974. Elles sont 300 000 chaque année. Ce sont celles que nous côtoyons chaque jour et dont nous ignorons la plupart du temps la détresse et les drames. Voilà ce que disait Simone Veil il y a plus de 50 ans devant l'Assemblée nationale face à 480 hommes et 9 femmes. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame et cela restera toujours un drame, assure-t-elle alors. Deux mois avant, un sondage montre que 75% des Français et Françaises sont pour une légalisation de l'avortement. Face à une opinion publique divisée, la ministre de la Santé accuse alors une vague d'insultes, certains allant jusqu'à comparer l'IVG au crime nazi. Mais à la surprise de beaucoup, le Sénat vote en grande majorité pour la légalisation de l'avortement. 17 janvier 1975, la loi Veil est promulguée. Les femmes françaises ont le droit depuis ce jour historique de recourir à l'IVG et s'en est suivi 49 ans après, le 8 mars 2024, une nouvelle étape historique pour les femmes en France. En effet, il y a un peu moins d'un an, la liberté de recourir à l'IVG a été inscrite dans la Constitution française. Et nous voilà 50 ans après, 17 janvier 2025. Au centre de santé sexuelle du CHU de Brest s'est tenue une matinée dédiée à l'interruption volontaire de grossesse. Au programme, des informations sur les modalités de l'IVG et des échanges avec des professionnels de santé. Le lendemain, chez nos voisins nantais, le planning familial et l'intersyndical Femmes 44 se mobilisent dans le centre-ville avec des banderoles au bout des bras, rappelant aux passants que, je cite, « ce droit, il nous faut le défendre, le rendre accessible à toutes les personnes qui en font le choix ». Hier, à Paris, quelques milliers de personnes s'opposent à cette idée et marchent pour la vie. Les militants conservateurs qualifient l'avortement comme de l'euthanasie. Sophie, une manifestante interrogée par Sud-Ouest lors de la marche, affirme que, je cite, « le débat est toujours ouvert en France ». Ici en France, le rapport de la Direction de la Recherche des Études de l'Évaluation et des Statistiques de 2024 recense 243 623 IVG réalisés dans l'Hexagone et dans les Drômes, dont plus de 143 000 IVG ont été pratiqués au sein d'établissements de santé. En Europe, 25 des 27 États autorisent l'IVG sans besoin de justification de la part de la femme, mais certains pays rendent son accès limité, comme en Pologne par exemple. L'avortement n'y est autorisé qu'en cas de viol, d'inceste ou de danger pour la vie de la mère. 50 ans après le discours de Simone Veil, dans le monde, 753 millions de femmes, soit 40% des femmes en âge de procréer, n'ont toujours pas accès à l'IVG ou ne peuvent y recourir que sous certaines conditions, notamment lorsque leur vie est en danger ou pour des raisons de santé.
Merci Eva pour ton papier. Le lycée Jean-Lecurie a vu vert jeudi dernier. Avec l'aide de l'asso Mini Big Forest et la fondation Proman, les élèves ont pu planter plus de 1200 arbres de 27 essences différentes. La mini forêt s'étendant sur 400 mètres carrés est composée d'arbres armoricains sélectionnés par le pépiniériste Arnaud Fourier. Le projet vise à valoriser l'engagement des jeunes dans la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable définis par l'ONU.
Merci Cyriane. Arrêtez le JT à 20h, allez au théâtre, on en parle avec notre invité ce soir.
Quelle heure est-il ?
6h.
Il est midi,
la radio sauvage.
Minuit.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
pull noir, manteau noir, assorti au casque noir, mais il y a quand même les lunettes, les petites lunettes rondes marron qui sortent. Bonsoir, Nathaël Simon, pardon.
Bonsoir.
Donc, vous faites partie du média Les Trois Ours. Est-ce que, tout d'abord, vous pouvez nous présenter ce nouveau média breton ?
Alors, c'est vraiment un nouveau média, parce que c'est notre premier spectacle d'information qui aura lieu vendredi. Et donc, du coup, ça, on s'appelle Les Trois Ours. Les Trois Ours Médias, l'envie, c'est de créer un média où on va faire de l'information sur scène. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de la radio, au lieu de faire de la télé, au lieu de faire de la presse écrite ou du web, on a décidé que bah, peut-être que l'information, on pouvait aussi la faire sur scène.
Est-ce que vous connaissez d'autres médias qui font ça ou alors ça vous est venu tous, avec cette équipe
On n'invente jamais rien. On oui. pique toujours des idées à d'autres, heureusement, et c'est tant mieux. En fait, il n'y en a pas tant que ça. Ça nous est venu en voyant deux choses. D'une part, un média qui s'appelle Live Magazine, qui est à Paris, qui fait des spectacles tous les trimestres, des spectacles d'information. Des Live Magazine, c'est quasiment une marque. C'est vraiment assez extraordinaire, je vous le recommande. Donc là, c'est l'idée de faire monter 8 à 10 personnes sur scène, et de, un peu comme un magazine qu'on feuilleterait, donc avec des rubriques, etc. Et la deuxième source d'inspiration, c'est à Marseille, ça s'appelle Média Vivant. Eux, ils font de l'enquête sur scène. Et là, c'est un journaliste qui, pendant une heure et demie, vous raconte son enquête, fait monter les témoins sur scène. C'est un autre genre encore, et c'est vraiment, dans les cas, très passionnant et très inspirant.
Et est-ce que je peux vous demander votre rôle dans l'équipe ? Qu'est-ce que vous faites en média ?
Alors, nous, on est trois journalistes à la base. On s'est rencontrés lors sur un précédent média qui n'avait rien à voir, qui s'appelait La Grenouille à Grande Bouche, qui était une revue culinaire de société. L'objectif, c'était de raconter la société à travers ce qu'on mangeait. La seule dimension qui fait que c'était commun, c'était la dimension un peu peut-être participative qui nous a fait nous rencontrer aussi. Donc, on était trois journalistes. La revue s'est arrêtée parce qu'il y avait tout un contexte économique qui fait que ça ne marchait pas. Mais de cette rencontre-là est née l'envie de faire ce nouveau média. Donc, moi, je suis journaliste de formation, je suis journaliste radio. J'ai même fait mes débuts ici avant de devenir journaliste professionnel, ce qui s'appelait à l'époque Radio Campus. Et aujourd'hui, je suis coordinateur de ce beau projet, qui est plus qu'un projet maintenant, parce que ça y est, c'est notre premier spectacle.
Mais donc, vous n'aviez jamais travaillé mélangé deux milieux de cette façon avec le théâtre et le journalisme. C'est la première fois que vous faites ça.
Oui, et puis en plus, c'est quelque chose d'assez récent. C'est-à-dire que cette envie-là, et on y viendra peut-être après, je ne veux pas anticiper, mais elle naît aussi d'un constat qui est que on a peut-être besoin d'inventer d'autres formes, d'autres manières de faire du journalisme. Donc du coup, c'était une première pour nous. Et effectivement, du coup, pour répondre à votre question, c'est ça la question aussi, c'est on est des journalistes, on vient des médias. C'est-à-dire que moi, je sais créer un média. Mais par contre, je ne viens pas de la scène. Donc moi, la scène, c'est une découverte complète. Et pour autant, on utilise bien les codes de la scène quand même.
En parlant de la scène, souvent pour les actualités, on lit le journal, on regarde les infos. C'est assez un contexte où on est assez seul. Et là, c'est sur scène, il y a un public regroupant tout le monde. Donc ça, c'est un contexte assez intime pour partager des actualités. Pourquoi est-ce que vous avez choisi un tel contexte pour partager des actualités avec un public qui peut être avec des avis assez divergents potentiellement ?
Alors c'est votre question, elle est très juste. C'est le pourquoi de ça. C'est alors il y a plusieurs raisons. Il y a la première raison, c'est aujourd'hui on est la plupart du temps quand on s'informe. Et aujourd'hui, plus qu'avant encore, seul face à son écran, face à son smartphone, et on reçoit seul l'information avec toute la violence que ça peut avoir. Je pense qu'on a tous vécu des moments où on s'est réveillé un matin, on a allumé son smartphone et on s'est pris une nouvelle qu'on n'avait pas envie de se prendre, qui est parfois violente, qui est parfois dure, et avec l'envie parfois de jeter son téléphone, d'être agacé, d'être énervé, etc. Et tout. Et l'envie, c'est de se dire, peut-être qu'on n'est pas obligé d'être seul face à l'information. Peut-être qu'aussi, il ne se passe pas la même chose, et on le sait, quand on va au théâtre, il ne se passe pas la même chose quand on est à plusieurs face à un événement, parce qu'on entend l'autre s'agacer, parce qu'on entend l'autre rire, parce qu'on entend l'autre, en tout cas, réagir, déjà, et du coup, on n'est pas seul. Et puis, l'autre chose, c'est que ça n'a quand même rien à voir d'avoir quelqu'un en face de soi, en vrai, quelqu'un de tangible, quelqu'un de réel, qui respire, qui parfois hésite, parfois bafouille, et un smartphone, c'est pas du tout la même chose. Il m'est arrivé là, moi, récemment, de voir une enquête sur scène. Certains témoins sont montés sur scène, c'était poignant, c'est-à-dire que c'était des femmes qui venaient de vivre des choses extrêmement dures. Et ben, ça n'avait encore rien à voir que si j'avais regardé ça sur mon smartphone, sur une simple vidéo. Donc du coup, cette idée, elle est de dire, remettons du collectif dans le rapport à l'information. Remettons l'envie de partager collectivement une information, parce que peut-être que du coup, on ne la vivra pas de la même manière, Et puis nous, on va plus loin, parce qu'en plus, derrière, il y a un débat. Et peut-être que derrière, et ben, si en plus on a vu la même information et qu'on en discute après collectivement, peut-être qu'on ne s'écharpera pas, peut-être qu'on s'écoutera. Donc c'est tout ça qui est en jeu aussi. C'est vraiment, et c'est, j'aime beaucoup votre question, parce qu'effectivement, l'envie, c'est bien de remettre du collectif dans le rapport à l'information, ce qu'il n'y a plus du tout aujourd'hui.
Vous avez parlé que bah, certaines informations peuvent, dès le matin, ne pas être très agréables à écouter ou à lire. Et je voulais vous parler, enfin, rebondir sur le premier spectacle que vous allez avoir le 24 janvier prochain, qui est un journal intime. Est-ce que, tout d'abord, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est le journal intime ?
Alors, vous avez vu tout à l'heure, quand je vous ai parlé d'autres expériences un peu partout en France, c'était deux différents formats. Nous, on a l'envie de développer plusieurs formats d'information. De la même façon qu'en radio, quand on fait de la radio, il y a différents formats. Il y a des interviews, il y a des chroniques, vous venez d'en faire une. Il y a des interviews, il y a des journaux. Il y a comme ça, on pourrait décliner comme ça un certain nombre de formats. On veut décliner différents formats sur scène. Donc là, c'est le premier format qu'on va décliner, qui s'appelle un journal intime. L'idée de ce format, c'est de faire monter un journaliste spécialiste d'un sujet particulier, qui le couvre de manière très régulière, qui le vit au quotidien, pour à la fois nous raconter les coulisses de ce qu'il peut voir au quotidien, nous permettre de faire un pas de côté, et puis nous raconter aussi son rapport sensible à l'information. Donc ça, c'est le premier format. Je réponds sur votre question des formats. Un deuxième format qu'on a envie de développer, c'est la question de l'enquête sur scène, par exemple, où là aussi, l'idée, c'est de faire comme ce qui se fait à Marseille, de faire monter un journaliste qui nous raconte, là, cette fois-ci, une enquête. Il vient nous dévoiler une enquête. Un troisième format sur lequel on veut travailler, c'est la question de l'interview participative. C'est-à-dire l'idée de faire venir quelqu'un d'assez connu, mais cette fois-ci, au lieu de l'inviter, de ce qu'il soit interviewé par un journaliste, dont c'est le métier, mais de le faire inviter par un panel de gens dont c'est pas le métier, mais qui aura envie pour autant de venir l'interviewer. Et donc l'idée, c'est à chaque fois de développer toute une série de formats et progressivement, si ça marche bien, de créer une régularité. C'est-à-dire que là, on fait un premier journal intime, on fait monter une journaliste d'RTL qui va venir nous raconter le procès de Mazan. Peut-être que la fois prochaine, ça sera autre chose. L'idée à chaque fois de ce format-là, c'est aussi de se dire, faisons un pas de côté sur une actualité qui a occupé l'espace médiatique de manière très dense, très, très costaud. Si vous voulez, pour nous donner une idée, on hésitait entre quatre sujets là, pour ce premier journal intime. On hésitait entre Mazan, la guerre en Ukraine, Gaza ou la question des élections américaines. C'est-à-dire les quatre sujets qui ont vraiment, dont on sait le plus manger, dont on n'en peut plus. Et l'idée de se dire, bah, peut-être que si on fait venir un journaliste qui nous parle un peu plus de ça et qui nous raconte aussi de manière plus intime, peut-être que ça sera peut-être un peu apaisant.
Et donc, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi le procès des viols de Mazan ?
Parce que c'est, enfin là pour le coup, moi j'aurais dans une autre vie, j'aurais adoré couvrir ce procès-là, parce que c'est des procès comme on n'en avait jamais vu. Pour une simple et bonne raison, c'est que normalement, un procès de viol, il y a un huis clos. Il y a toujours un huis clos. La journaliste, et c'est l'une des choses qu'elle racontera sur scène, la journaliste qui a couvert ce procès-là, et les journalistes police-justice qui ont couvert ce procès-là, le premier jour du procès de Mazan, ils y sont allés en se disant, on va passer la journée là-bas, ça va être plié, le juge va prononcer le huis clos, ça sera terminé. Et là, surprise des surprises, elle dit non. Quand je dis elle, c'est Gisèle Pellicot. Gisèle Pellicot dit non, il n'y aura pas un huis clos, je veux que ce soit public. Et là, ça ne s'est jamais vu. Donc ça, déjà, ça ne s'est jamais vu en soi. Et puis en plus, c'est quand même un truc de dingue, et on le sait bien tous, mais 50 personnes, 50 accusés, avec cette idée en plus qu'il y a deux choses, il y a la rencontre de deux choses dans ce procès-là. Il y a d'un côté un serial violeur, qui est son mari, dont on n'a pas fini parce qu'on ne le sait pas encore, mais il y a des cold cases qui vont sortir, des anciennes histoires qui vont sortir. Enfin, c'est une histoire sans fin, c'est vraiment un truc. Je pense que c'est l'un des plus gros serial violeurs qu'on ait jamais vu dans l'histoire française. Donc d'un côté ça, et de l'autre côté, des individus, des anonymes qui sont des Français, j'ai envie de dire lambda, qui ne sont pas tout à fait lambda, mais quand même, qui se retrouvent au milieu de ça. Donc c'est la rencontre d'un serial violeur et d'anonymes qui, entre guillemets, ont commis un viol, mais qui n'a rien à voir dans l'ampleur. Je dédouane pas. Hein. Je dis juste que ces deux choses, la rencontre de ces deux choses-là, qui fait que c'est un procès complètement hors norme. Qui fait que c'est quatre mois de dingue. Et la dernière chose qui est complètement folle dans ce procès, c'est les vidéos. C'est qu'on a un procès, et on les projette pas, que c'est pas du tout notre enjeu, et ça nous intéresse pas. Mais on a un procès où chaque fois qu'un accusé dit c'est pas vrai, la cour dit bon, on va regarder la vidéo. Et je n'ai pas besoin d'en dire plus. Je vois votre tête, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Et c'est horrible, et c'est atroce. Mais en tout cas, c'est un procès comme on n'en avait jamais vu. Et comme je pense, on n'en reverra pas de sitôt. Parce que généralement, dans les affaires de viol, non seulement il y a huis clos, mais en plus, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de preuves. Alors que là, c'est tout l'inverse.
Mais donc, c'est des sujets d'actualité qui sont très complexes, comme vous l'avez dit. Et je me demandais, sur la scène, comment faire pour qu'un sujet aussi complexe, qui n'est pas fini, qui est beaucoup parlé sous différents angles. Comment vous pouvez le mettre en scène en un spectacle?
Mais c'est là où c'est passionnant, c'est qu'on fait comme quand on fait de l'information, on éditorialise, c'est-à-dire qu'on fait des choix. Nous, on ne raconte pas tout notre propos, on a deux, trois propos. On en a un, c'est effectivement la dimension collective, vous l'avez compris. La deuxième chose, c'est la question, il y a deux autres choses qui nous tiennent beaucoup à cœur, c'est la question du pas de côté, c'est-à-dire de l'envers du décor, et la question de la subjectivité. Donc là, une fois qu'on a posé ces deux choses-là, ça guide tous nos choix. L'idée pour nous, c'est de bien montrer comment elle l'a vécu. Donc du coup, on ne va pas parler que du procès, on ne va pas aussi parler d'elle, comment elle l'a vécu, comment elle a travaillé, qu'est-ce qui l'a marqué. Et du coup, déjà, vous voyez là, en quelques mots, je vous donne déjà des axes de travail. Et puis, effectivement, la deuxième chose, c'est qu'on veut aussi montrer l'envers du décor. Et là aussi, ça guide nos choix. Et donc, du coup, on ne dit pas tout. On fait des choix en fonction de ces deux axes-là.
Et est-ce qu'il y a un public, par exemple, que vous cherchez à toucher, peut-être des personnes qui s'informent peu ou ne s'informent pas?
Alors, c'est assez rigolo parce que je vous disais, on avait une première expérience de média. Le premier média qu'on avait créé, on s'était lancé sans chercher à savoir au préalable qui ça pouvait intéresser. On avait trouvé un public, hein, mais voilà, là, on a fait très différemment. Avant de lancer le média, on a fait ce qu'on appelle une étude d'audience, c'est-à-dire une enquête en ligne, auquel ont répondu plus de 300 personnes, pour savoir un peu qui serait intéressé par ce type d'information. Et contrairement à ce qu'on a pensé, une des surprises, c'est que ce n'est pas ceux qui ne s'informent pas, c'est ceux qui sont surinformés. Okay. C'est les 25-45 ans à peu près, majoritairement des femmes, dans ce qu'on a vu nous, qui sont surinformées, qui sont sur les réseaux sociaux, qui suivent l'actualité et qui n'en peuvent plus, qui ont besoin d'autre chose, en fait. C'est les premières personnes à qui on s'adresse, et c'est les premières intéressées. On le voit là encore là dans les réservations, parce qu'on a les réservations sont en ligne, donc je vois un peu je peux pas m'empêcher de regarder un peu qui réserve, et c'est effectivement cette cible-là.
Et donc, le premier spectacle sera vendredi. Est-ce que vous savez déjà sur peut-être les prochains spectacles, sur quoi ils vont être ou...
Non, parce que l'idée, c'est à chaque fois, c'est de le prochain spectacle, en tout cas sur les journaux intimes, à chaque fois sur les journaux intimes, l'idée, c'est à chaque fois, c'est de faire un pas de côté sur une actualité qui aura saturé l'espace médiatique. Donc là, je ne sais pas à l'avance. On en voit un poindre hein, dans les choses comme ça. Là, si on avait aujourd'hui à faire un journal intime, je ne sais pas si ça sera qu'on ferait, mais s'il fallait qu'on fasse le prochain journal intime dans un mois... Là, ce qui sature l'actualité, c'est les réseaux sociaux, c'est Elon Musk, c'est Twitter, par exemple, en ce moment, qui sursature l'actualité. Parce qu'en plus, c'est, comment dire, il y a deux, trois scientifiques qui le disent bien, mais on n'en a pas fini, là, avec Elon Musk. On ne se rend pas compte de la puissance du gars, là, quand même, et de ce qui nous arrive et ce qui va nous arriver dans la tronche, quoi.
En parlant d'Elon Musk, j'avais une question à propos des fake news, par exemple. Est-ce que vous pourriez ou voudriez faire quelque chose pour combattre les fake news qui peuvent être sur X? Ou est-ce que c'est pas encore dans les plans?
C'est prétentieux. Lutter contre les fake news, c'est extrêmement compliqué. Et je ne sais pas si on peut vraiment lutter. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de proposer des choses alternatives, justement, différentes. Et puis, ce n'est pas un spectacle qui lutte contre les fake news. Mais en tout cas, quand on vient s'informer sur scène, quand on voit quelqu'un face à soi qui vous explique les choses, le rapport change. C'est-à-dire qu'on, du coup, ça donne une autre réalité encore à l'information. Donc, si à notre petite échelle, on peut faire bouger les choses... Oui, mais encore une fois, il faut être modeste, quoi.
Et donc, enfin, comment s'informer sur votre média? Où, quand, sur quel réseau? Est-ce que vous avez un site?
Alors, on a un site, parce qu'un des enjeux pour les médias aujourd'hui, c'est d'avoir des sites. On pourrait en parler une autre fois, mais l'un des enjeux aujourd'hui, c'est d'arriver à perdre la dépendance. Pour tous les médias indépendants, là, je vous parle, pour tous les médias indépendants, type Strip, Petite Presse, Blast, le Média Vert, plein. L'enjeu, c'est de se débarrasser de la dépendance aux réseaux sociaux. Donc, on a un site qui nous permet d'être en direct, donc 3ours.fr. Et après, on est quand même sur les réseaux sociaux. On a fait un choix délibéré, on n'est pas sur Twitter. Ça ne nous intéresse pas. Va se poser la question demain de est-ce qu'on reste sur Meta ou pas, si l'autre il continue à prendre les directions qu'il prend. Et donc on est sur Instagram aujourd'hui essentiellement, sur Facebook un peu, et sur LinkedIn. Donc on a des comptes, 3ours à chaque fois, 3ours.fr. Voilà.
Merci beaucoup.
Et moi j'avais une petite question bonus en tant que journaliste, parce qu'il y a quand même beaucoup de méfiance vis-à-vis de ce métier, beaucoup de critiques, sûrement à juste titre. Du coup, comment vous vivez le fait de carrément vous mettre face aux gens sur scène? Est-ce que vous n'avez pas peur de certaines réactions ou de certaines critiques ou je ne sais pas?
Je pense que ça dépend beaucoup. Alors, il y a deux choses. C'est qu'un, d'une part, il y a quand même l'idée qu'il y a un premier filtre, c'est que les gens payent quand même. Nous, on est pour vivre. Là, nous, on n'a pas de subvention, on n'a rien. Donc, ça veut dire que si demain, venez nous voir vendredi soir à la salle de la Cité à 19h, j'en profite, je donne la date. Je donne la date, mais vous devez payer. Donc, du coup, ça veut dire que, du coup, pour se confronter à nous, vous allez devoir payer. Donc, ça, c'est une première chose, c'est un filtre. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc gratuit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que ça dépend beaucoup des sujets. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle, ce que je disais tout à l'heure, on a failli parler de Gaza. Et on s'est dit non, on ne va pas sur le premier sujet, c'est trop clivant parce qu'effectivement, il y a des sujets plus que d'autres qui sont extrêmement violents et on a vu apparaître ce qu'on n'avait pas vu à Rennes. C'est-à-dire, sur un sujet comme le conflit israélo-palestinien, ce n'est pas apaisé. À tel point qu'aujourd'hui, il y a des militants des deux côtés qui viennent et qui enflamment le débat et où là, c'est plus compliqué. Donc, effectivement, je pense qu'il y a des sujets plus que d'autres qui font peur. Effectivement, celui-là, nous, aujourd'hui, on s'est dit ouf, c'est notre premier, on débute, on ne va pas y aller. Pour autant, il va bien falloir y aller parce que, quand même. Après, nous, on parie sur le fait que, quand on est face à des gens et quand on n'est pas seul face à son écran, les gens ne sont pas les mêmes, quand même, globalement.
Ok, et bien merci Nathanaël Simon. Donc, premier spectacle le vendredi 24 janvier à 19h à la salle de la Cité. Pour réserver, c'est où ?
Pour réserver sur le site 3ours.fr, c'est le plus simple. Il y a un lien qui renvoie vers une billetterie. Et j'ai envie de dire, dépêchez-vous, il commence à plus y avoir beaucoup de place. Et c'est vrai en plus. Donc,
tant mieux.
tant mieux. Mais donc, si ça vous tente, il reste encore des places. Mais je pense que d'ici deux jours, il n'y en a plus.
Merci beaucoup.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
Bientôt, plus d'APL ? C'est la dernière rumeur circulant sur les réseaux sociaux. Pour nous éclairer, Héloïse et Cyriane nous décryptent tout ça dans la chronique Fake News.
J'ai entendu dire sur TikTok que les allocations de logement vont être supprimées en 2025. Est-ce que c'est vrai ?
Moi aussi, j'en ai entendu parler, Héloïse. Mais rassure-toi, tout ça, c'est faux, c'est bidon. Tout d'abord, rappelons que les aides au logement versées chaque mois par la Caisse d'allocations familiales, la CAF, permettent d'aider les personnes éligibles à payer leur loyer. Dans son rapport d'activité de 2023, la CAF a versé 15,3 milliards d'euros d'aide à 5,6 millions de bénéficiaires.
Mais alors, cette suppression des APL, d'où est-ce qu'elle vient ?
Depuis le début de l'année, les fake news à ce propos fleurissent, et ce, surtout sur TikTok. Par exemple, une vidéo d'Actulist, compte bien connu pour répondre des fake news, publiée ce mois-ci, a été vue plusieurs centaines de milliers de fois.
À partir de début 2025, la Caisse d'allocation familiale CAF va supprimer l'allocation logement. Cette annonce a été confirmée hier sur BFM TV et marque un changement très radical dans les aides aux locataires et propriétaires admissibles.
Cette musique dramatique.
Une annonce tonitruante. Et en prime, hein, c'est pas tout, les APL seraient même remplacées par une nouvelle aide. Évidemment, hein, c'est faux.
Cependant, cette suppression sera compensée par l'introduction d'une nouvelle subvention financière destinée à soutenir les travailleurs percevant moins de 2000 euros net par mois. Cette aide, qui sera allouée par personne et non par ménage, pourrait varier entre 300 et 400 euros mensuels.
Du grand n'importe quoi, hein, mais qui s'explique. Parce que le contexte budgétaire français étant compliqué, des rumeurs concernant la potentielle baisse, voire la suppression des aides sociales, circulent depuis plusieurs mois. Et c'est notamment les mots de Thomas Cazenave, ex-ministre délégué en charge des comptes publics, depuis remplacé par Amélie de Montchalin, qui ont mis le feu aux poudres. Il avait déclaré le 6 mars lors d'une audition devant les sénateurs.
Les APL, ça ne sert à rien. Ça nous coûte près de 14 milliards d'euros par an et cet argent va directement dans les poches des propriétaires.
Quelques jours après, le 20 mars, le Paris Match s'emparait du sujet et publiait un article intitulé « Supprimer les APL n'est pas un tabou pour le camp présidentiel ». Le 21 mars, Thomas Cazenave, sur France Info, assurait qu'il n'y avait pas de projet de réforme, de suppression ou de rabot sur les aides publiques au logement en projet.
Mais alors, est-ce que tu as une autre preuve que les APL ne vont vraiment pas être supprimées ?
Eh bien, le directeur de la communication de la CNAF, Damien Rangé-Martinez, contacté par l'agence France Presse, a assuré le maintien de ces aides. Il est même écrit sur le site de la CAF que...
Non, les CAF n'ont pas arrêté de verser les allocations logement depuis le 1er janvier 2025. Ces aides, comme toutes les prestations sociales, continueront à être versées en 2025.
Bien évidemment, la CAF appelle à se renseigner sur leur site et à ne pas partager ces fake news.
Merci pour ce décryptage. Deux courts messages d'intérêt général avant de se quitter.
Le téléphone.
Allô ? Allô ?
Syllab, la radio sauvage.
Oui, notre répondeur est vide, mais vous le savez, si vous avez envie de vous exprimer, si vous avez une suggestion de sujet, un retour sur nos interviews, sur nos reportages, bon, il n'y en avait pas aujourd'hui, mais sur ceux de la semaine dernière, je ne sais pas. N'importe quoi, eh bien laissez-nous un message vocal au 02 30 96 25 35. Il sera diffusé à la fin de cette émission. Et puis, je voulais vous dire aussi qu'il y a encore deux concours si Lab vous offre des places pour des événements du festival de danse Waterproof. Il y a donc en jeu deux places pour Rupture de Mercedes Dessy. Ça se passe le mercredi 29 janvier au Théâtre de l'Air Libre de Saint-Jacques-de-la-Longue. À gagner également deux places pour la soirée Let's Dance Waterproof. Ça va être super avec la Reine des Voyous au platine. Ça, c'est le 1er février à l'UBU. Pour jouer et pour gagner, vous aurez besoin d'un mot de passe. Le mot de passe...
Triangle,
pas rond, pas carré, triangle, comme le nom de la cité de la danse rennaise. Et puis, il y a le festival Autre Mesure en ce moment aussi. On vous propose de gagner deux places pour la conférence sur rien, tout un programme de John Cage, lu par Jérôme Bell à la chapelle du Conservatoire de Rennes. Ça, c'est le samedi 25 janvier. Mot de passe, bah, pour la conférence sur rien.
Il n'y a pas de mot de passe.
Le mot de passe, c'est il n'y a pas de mot de passe. Voilà. Merci Gwen pour la technique. À demain.
Sauvage.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18 heures, 19 heures, sur Syllabe.
La radio sauvage.